Philosophe, la série de France Inter consacrée aux révolutionnaires de la pensée, toujours en compagnie du philosophe et directeur de l'École normale supérieure Frédéric Worms. Troisième thème, Simone Veil et la justice. La justice, Frédéric Worms, c'est un thème absolument central dans la pensée de Simone Veil. Et pourtant, le sous-titre de son essai « L'enracinement », le sous-titre, c'est « Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain ». Très étonnant que, quand on pense le malheur des hommes, quand on a fait l'expérience du malheur, on aboutisse à une revendication des devoirs et non pas à une pensée des droits. Pourquoi est-ce que ça, c'est révolutionnaire ?
C'est révolutionnaire et c'est comme ça que moi-même, d'ailleurs, j'ai découvert Simone Veil en travaillant il y a très longtemps, en 89 déjà, en fait, sur une anthologie de texte sur les droits de l'homme, et je suis tombé sur sa critique des droits de l'homme. Et elle pense que le langage des droits de l'homme exprime le malheur humain, mais risque de le redoubler. Parce que, au lieu de répondre au malheur humain par l'obligation d'y répondre pour tout le monde, le malheur suscite en nous, en principe, une obligation universelle. La faim, F.I.M., nous donne l'obligation de nourrir, et ainsi de suite. Eh bien, le droit va être une expression du malheur qu'elle juge subjective et divisante. C'est-à-dire, je réponds à mon malheur contre celui des autres. Le droit, c'est le mien contre les autres, j'attends des autres, alors que l'obligation est universelle. Et elle dit, sur une île déserte, j'aurai encore des obligations, mais je n'aurai plus de droits parce qu'il n'y aurait plus les autres à qui je les demanderai. Alors que l'obligation, je l'aurai toujours parce qu'elle n'est pas relative à moi et l'autre, mais elle est universelle, éternelle, dit elle-même. Donc l'obligation est la vraie réponse au malheur et le droit est une demi-mesure.
C'est une demi-mesure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser l'homme comme Robinson Crusoe sur son île.
C'est-à-dire que la revendication des droits universels est une vraie réponse à l'oppression, à l'aliénation, au malheur.
Et puis il ne faut pas faire
l'anachronisme. Mais qui risque de reconduire la division.
Elle est morte c'est les avant la déclaration universelle des droits de l'homme.
Non, mais elle a bien connu celle de 89, de 1789.
Oui.
Et elle a effectivement pensé... Donc, l'enracinement est un texte qui lui a été commandé par la France libre. Et elle a pensé que pour redonner sens après une catastrophe à un pays dans le malheur, il fallait lui redonner le sens du bien et que c'était pas son droit contre les autres, mais les obligations envers tous les humains et envers elle-même. Je pense que c'est extrêmement actuel aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui pensent, on est plusieurs à y travailler d'ailleurs, dans le sens qu'aujourd'hui, face aux transgressions de toutes les règles humaines, de tous les principes, de la vérité, du bien, du respect, en effet, peut-être que les droits ne suffisent plus.
Nous avons
réclamé des droits, il faut aujourd'hui maintenant réclamer le respect des obligations.
Mais il y a malgré tout une critique conservatrice des droits de l'homme. C'est pas ce qu'elle a en tête.
Alors, Simone Veil, en effet, il faut pas croire qu'elle va renoncer aux droits. Elle va juste les mettre sous le signe des obligations qui sont, encore une fois, universelles et qui répondent malgré tout à l'attente de tous les sujets. Et donc, ceux qui opposent les obligations aux droits comme si on pouvait abandonner les uns au nom des autres, sans travail effectif de justice, puisqu'on parle de justice, sans critique des aliénations, sans aller voir les torts que nous produisons sur les autres et pas seulement des obligations qu'on doit respecter pour nous, bien voilà, elle est, de ce point de vue-là, vraiment une vraie révolutionnaire de l'obligation. C'est donc peut-être la seule au monde.
C'est peut-être la seule, en tout cas, elle a cette phrase, la notion d'obligation prime celle du droit. Et c'est vrai que les droits de l'homme, donc, chez Simone Veil, sont subordonnés, ils sont relatifs, mais il y a un idéal chez elle de justice qu'elle exprime.
On peut même dire que finalement, dans ce livre extraordinaire que Camus a édité après la guerre, on voit pourquoi la justice dépasse même le bien. Ou en tout cas, la vérité du bien. Et chez Platon lui-même, il y a une tension, et dans toutes les grandes pensées de l'histoire humaine, il y a cette tension entre la justice et le bien. Le problème, c'est que le bien est pluriel.
Oui.
Et que les obligations sont plurielles. Par exemple, elle dit, il y a l'obligation de respecter la liberté, mais aussi l'autorité. L'obligation d'obéir. Elle dit d'ailleurs, quelqu'un qui n'obéit plus est un malade. Et un homme qui exerce le pouvoir sans respecter des lois est un malade. Je pense à un pays du monde démocratique aujourd'hui où un président pense qu'il n'obéit plus à personne et il est malade. Donc il y a des obligations contradictoires. Liberté, autorité, par exemple.
Si on doit penser l'obligation aujourd'hui, est-ce que l'une des dimensions, on va faire un anachronisme, ça pourrait être aussi une obligation envers la nature.
Envers la nature,
respecter la nature.
Mais aussi envers la science.
Donc l'écologie et la science.
Voilà, mais du coup, s'il y a des obligations contradictoires, quelle est l'obligation fondamentale?
Oui.
C'est l'obligation de respecter un principe qui coordonne toutes les obligations. Ce principe, c'est la justice. C'est-à-dire l'idée d'une société humaine ordonnée qui concilie le contradictoire. Pour moi, c'est fondamental. Comment concilier une obligation envers soi-même et envers autrui, et envers tous les autrui? Eh bien, une constitution, une société juste, c'est une société non seulement qui oppose la force et la justice, mais qui concilie les diverses obligations dans un même système. Et c'est pas si facile. Essayer d'être juste, c'est pas si facile.
Dans l'Enracinement, donc l'un de ses très grands livres, elle fait une sorte de liste de ses obligations envers son prochain, envers l'être humain, qui doit correspondre à la liste des besoins vitaux, c'est-à-dire en premier lieu la faim, ce que vous disiez tout à l'heure, la faim, F-A-I-M. Quels autres besoins vitaux?
En fait, elle prend la faim comme une analogie. Elle parle des besoins de l'âme. Et pour parler des besoins de l'âme humaine, comme la beauté, la vérité, le respect, elle prend l'analogie des besoins du corps. Et on appelle besoin, d'une manière générale, et c'est là que moi je la retrouve aussi dans une forme de vitalisme très profond, on appelle besoin ce qu'il faut satisfaire sous peine de mort.
Oui.
Un plaisir, c'est quelque chose dont vous pouvez vous passer. Vous pouvez vous passer de manger tel ou tel gâteau, mais vous pouvez pas vous passer de manger.
Et elle a fait l'expérience de la faim dans sa chair. Elle s'est forcée, alors d'abord, avec son salaire d'ouvrière, elle avait très peu de moyens pour subvenir à ses besoins fondamentaux, à ses besoins vitaux, mais elle a été même plus loin. Elle s'est privée jusqu'à véritablement éprouver la faim dans son absoluité.
Vous avez raison, c'est-à-dire que au début du livre, elle dit « Je prends la faim comme un modèle » pour penser tous les autres besoins. Pourquoi est-ce qu'on peut mourir d'injustice? Ben, c'est exactement comme mourir de faim. Ça prouve que la justice est quelque chose dont l'âme a besoin pour survivre. C'est pas gratuit, c'est pas facultatif, c'est pas un luxe. Vous pouvez mourir de honte ou d'humiliation. Mais, évidemment, la faim F.A.I.M. n'est pas seulement un modèle analogique pour penser les autres besoins de l'âme, c'est une expérience première qu'on doit se rappeler, qu'on doit même vivre pour comprendre de quoi il est question dans l'histoire humaine. Et donc, en effet, elle va en usine. Alors, c'est très compliqué. La biographie de Simone Veil dit, elle se laisse mourir de faim pour vivre ce que vivent les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Elle souffre de ne pas avoir été envoyée comme infirmière, comme elle l'avait demandé. Et donc, elle vit en Angleterre ce drame de ne pas être dans l'action. Et elle souffre, elle fait l'expérience de la faim.
Et puis, il ne faut pas oublier que pendant la guerre, il y avait les tickets de rationnement.
Oui, mais
en l'occurrence, même...
En Angleterre,
elle ne voyait pas pourquoi manger plus que ceux qui devaient se rationner.
Oui, je crois surtout que pour elle, je crois que le rappel de l'expérience du malheur n'est pas si facile. Nous cherchons tous à éviter le malheur, il ne faut pas l'oublier. Et donc, pour ne pas l'éviter, eh bien, il faut se jeter dans la bataille.
Simone Veil et la justice, c'est aussi une question. Une question qu'elle adresse à la France en pleine guerre. Luttons-nous pour la justice? Il ne suffit pas de lutter contre le nazisme. D'ailleurs, elle compare le nazisme qui inflige à la France un supplice qui est comparable à celui de la colonisation. Il faut encore critiquer les injustices qui demeurent en soi.
Il faut finalement appliquer la règle d'or de l'évangile. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de se la rappeler, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Et elle dit à la France occupée,
oui,
vous êtes en train de comprendre ce que vous infligez à ceux que vous occupez. Et donc, il y a en effet cette sorte de règle d'or qui fait que cette question lancée en pleine guerre, luttons-nous pour la justice, qui sonne comme une provocation pour des gens qui... En effet, les résistants luttaient pour la justice, mais elle dit, luttez-vous vraiment pour la justice pour tout le monde. Et donc, elle est dans l'idée du Conseil national de la résistance, qu'elle ne connaissait pas, je pense, mais c'est la même idée. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement gagner la guerre contre l'oppression, il faut construire un programme fondé sur la justice pour la suite. Et aujourd'hui, nous avons la même nécessité. Nous faisons face aujourd'hui à des pensées antidémocratiques, à un risque d'écroulement, peut-être même de retour du fascisme. Il ne suffit pas d'y résister localement. Il faut produire de nouveau un modèle de gouvernement fondé sur les obligations minimales, sur la justice. Je pense que Simone Veil doit nous orienter aujourd'hui, vraiment, peut-être différemment.
On l'entend, Frédéric Worms.
Je crois vraiment que c'est important.
Mais est-ce que, justement, puisqu'aujourd'hui la question se pose en ces termes, ce serait un anachronisme de dire que sa conception de la justice est liée à celle de la vérité, qui est une question cruciale en politique aujourd'hui, et pas simplement qu'en politique, dans la pensée, dans la manière dont nous réfléchissons, dont nous vivons, dont nous habitons le monde.
Ce qui est fascinant, c'est que nous sommes tous sidérés par une guerre menée aujourd'hui par certains contre la vérité, contre la vérité des sciences, contre la vérité des sciences qui nous alertent contre des dangers vitaux, les sciences du climat, les sciences médicales, etc. Simone Veil aurait été évidemment totalement scandalisée, puisque pour elle, la vérité est un besoin de l'âme, mais elle n'aurait pas été surprise. Parce que dans cette critique de la vérité, il y a un effet de vérité. Ça nous dit, au fond, l'injustice est toujours liée au mépris du vrai, et on pourrait presque dire, par un retournement logique, vous pouvez comprendre que la vérité est toujours du côté de la justice. Comme c'est ce qu'elle a toujours dit, on peut comprendre que pour elle, le mensonge fait partie de la violence humaine.
Oui, mais comment se débarrasser de tous les mensonges? Comment est-ce qu'on fait?
Alors, vous n'allez pas vous débarrasser de tous les mensonges. Mais par contre, il faut mettre un peu de vérité dans le monde. Un peu
notamment, de vérité par exemple, celui du patriotisme.
Alors, en tout cas, il faut de la vérité pure. Les humains ne peuvent pas résister au malheur sans un peu de joie et au mensonge sans un peu de vérité. Un peu de vérité pure, ça veut dire deux choses. Aux deux extrêmes, je pense, il y a l'école élémentaire, on pourrait dire. Et donc, il y a l'école, l'instruction. Et à l'autre bout, un discours politique qui résiste au mensonge par un peu de vérité. Vous n'allez pas réfuter les 150 mensonges des idéologues, des propagandistes tous les matins en vous réveillant sur France Inter. Ce sera impossible. Par contre, un vrai discours politique aujourd'hui doit dire la vérité du monde, doit dire qu'on s'oriente vers la justice, qu'on est prêt à faire ceci ou cela et qu'on s'engage clairement pour ce que d'autres ont appelé le parler vrai, dire la vérité du malheur, dire la vérité de certaines solutions, dire qu'on respecte des principes fondamentaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour lutter contre la masse des mensonges, la force de Simone Veil, c'est de nous dire que un peu de vérité suffit à lutter contre tous les mensonges. On va pas les réfuter un par un.
Elle qui s'est volontairement engagée dans la France libre, elle était prête à payer de sa vie la défense de son pays, de sa patrie. Quelle est la conviction profonde qui l'anime lorsqu'elle part pour Londres en 1943? Et pourquoi critique-t-elle la notion même de patriotisme, d'amour inconditionnel de la patrie?
Personne peut dire sa conviction profonde d'autrui. Hein. Moi, je ne suis pas en train de prétendre, après tant d'autres qui ont essayé de le faire, ce qu'elle ressentait intérieurement. Il faut toujours se référer à sa doctrine. Donc, je ne ferai pas cet exercice de projection empathique qui est irrésistible, mais qui en même temps a beaucoup nuit à la lecture de son œuvre. Encore une fois, c'est son œuvre qui doit nous orienter.
Alors justement,
et cette critique du patriotisme, voilà, cette critique du patriotisme, c'est pas un affect, c'est plutôt, il faut pas n'importe quel patriotisme. Il faut un patriotisme fondé sur ce qui, dans chaque patrie, nous rattache au bien. Alors, elle est très sélective. Oui. Encore une fois, pour elle, la France, c'est peut-être trois poèmes, deux démonstrations mathématiques, quelques textes de philosophie et l'expérience simple de la beauté du monde, des paysages et des grandes œuvres d'art anonymes, des cathédrales ou du chant grégorien, voilà. Alors, et des cathares, les cathares.
Et les cathares.
Hein, qui sont les
grands hérétiques.
Les hérétiques qui ont, dans le christianisme lui-même, rappelé le sens de ce qu'elle entend par le malheur et l'amour.
Simone Veil, elle meurt en 1943, elle ne sera donc pas témoin de la libération de la France, et pourtant, elle en était certaine, elle en était convaincue, là pour le coup, sans se projeter ou sans se mettre dans sa tête ou sa peau, elle écrit « Le gouvernement qui surgira à l'emploi le futur en France après la libération du territoire, ce gouvernement sera devant plusieurs dangers ». Quel est le risque majeur que court un gouvernement de la France libéré du nazisme ?
Alors, d'abord, c'est très important parce que cette forme de confiance n'est pas là non plus une sorte de confiance aveugle, subjective, un peu mystique au sens superficiel du terme. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devons retrouver, c'est justement le fait que dans l'histoire, il y a eu des catastrophes, mais il y a eu aussi des ressourcements. Il y a eu la terreur, mais avant, il y a eu 1789. Il y a eu Vichy, mais il y a la France libre. Et donc, en fait, il faut se replacer dans cette idée que c'est pas une sorte de confiance aveugle dans la France en général, c'est une sorte de ressourcement dans des événements précis contre d'autres.
C'est comme Camus qui pense qu'il peut y avoir un renouveau de l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, et en disant il peut y avoir, ça veut dire à certaines conditions, bien sûr. Il peut aussi ne pas y avoir. Et donc il est très clair que si elle écrit ce texte qui est une commande de la France libre et si Camus le publie après la guerre, c'est pour dire à quelles conditions la France libre sera aussi une France juste. Et elle ne sera libre que si elle est juste. Et aujourd'hui, encore une fois, pardon d'insister sur cette comparaison, je pense qu'il y a une urgence à dire ne résistons pas seulement aux dangers qui nous font peur, à juste titre, mais construisons les principes qui nous permettront de redevenir un peu un modèle, collectivement d'ailleurs avec l'Europe. Peut-être qu'aujourd'hui elle écrirait prélude à une déclaration des devoirs européens envers l'être humain.
L'héritage de Simone Veil, en quelques mots, Frédéric Worms ?
Mais donc moi je l'ai rencontrée autour de ce travail sur les droits de l'homme. Elle m'a ébranlé avec ses questions sur l'obligation, cette question de la nécessité. Moi je crois aujourd'hui que de nouveau on est pris entre un relativisme subjectiviste et puis un retour traditionnaliste. Elle nous remet en face des grandes expériences fondamentales de l'être humain. Pour moi, c'est moins son rapport à la transcendance, parce que pour elle chaque expérience du nécessaire est surnaturelle, hein, que cette polarité extrême de la vie humaine. Amour contre malheur, justice contre force. Pour moi, son héritage, c'est qu'on n'est pas perdu dans le monde. C'est une orientation.
Merci infiniment, Frédéric Worms.
Merci, Ali Badou.
C'était Philosophe, une série d'Ali Badou préparée par Maëlle Polsinelli, réalisée par Séverine Cassard. Prise de son, Adèle Caglar. Mixage, Basile Bocquer et Baptiste Collion. Coordination, Fanny Boyon. Un podcast original de France Inter.